Bien. Qu'est-ce que l'on appelle solide?
Ah oui, c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient liquide.
Ouais, je suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise.
Bobo is essentially Parisian.
Les gens sont stressés.
C'est la capitale, la ville lumière, les Champs-Élysées. Hey, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons.
La meuf qui m'invite à une soirée en banlieue.
On veut du solide.
On veut du solide.
On veut du solide.
On veut du solide.
D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rives, je vais crier.
Je t'aime. Je t'aime.
Bonsoir, bienvenue sur Radio Campus dans On veut du solide. Ça commence fort avec cet édito bien senti sur la Saint-Valentin de Fanny.
Oui, c'était pour la Saint-Valentin.
Ouais, on avait compris, hein, vraiment.
Un sentiment mélangé.
On a un programme, comme toujours, extrêmement solide ce soir. et puis aussi romantique, puisque on l'a compris avec Fafou, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin. Et on va donc essayer de stimuler vos oreilles et votre imagination avec des invités très, très sexy, on peut dire.
Beaucoup voilà. D'amour.
Ils sont là, autour de la table. Nous aurons Galice, pardon, qui a monté le Studio Museum. C'est une graphiste qui travaille le papier. Elle va nous parler de cette relation charnelle qu'elle a avec le papier, justement. On a hâte d'en savoir plus. Et puis, nous sommes très fiers de recevoir Isaac Delusion du label Microclimat. Et c'est un peu une sorte de grand chelem pour On veut du solide, qui après l'impératrice et Pépite, enfin nous accédons à Isaac Delusion. On est très heureux de vous recevoir.
Merci.
Très content.
Allez, On veut du solide, c'est parti.
20h, 21h, On veut du solide sur Radio Campus Paris.
Et Galice, je te laisse entre les mains de Lucie pour cette première interview.
Oui, Galice, je l'ai rencontrée au gré de mes pérégrinations sur Internet. Toujours en quête d'une petite activité du week-end ou encore d'une petite chose artistique à me mettre sous la dent, je vois passer cet atelier de papier marbré. Ces jolies taches de couleurs aux savantes harmonies attirent mon œil. Ce papier me rappelle celui qu'arboraient nos cartons à dessin à la belle époque où l'art plastique était obligatoire. Ce mélange de vert et de noir dont la création m'intriguait. Il semble qu'un atelier appelé Muséum détienne le secret de ce papier, ces papiers. Et donc, ensemble, on a invité Galice pour qu'elle nous en parle. Bonsoir Galice.
Bonsoir, c'était joli tout ça.
Ah ouais, mais vraiment, c'est à ça que ça m'a fait penser quand j'ai vu ce petit atelier, du coup, grâce auquel je t'ai découvert. Je voulais savoir, du coup, comment tu avais monté le studio ou l'atelier Muséum.
Alors j'ai monté le studio suite à un ras-le-bol un peu, parce que je cherchais du travail, je cherchais des gens qui avaient besoin d'identité graphique et je me retrouvais face à pas mal de portes fermées, de stages à répétition. Et je me suis dit, je vais monter mon truc, je vais faire ce que je veux, travailler avec qui je veux. Et j'essaye de faire ça depuis presque un an maintenant.
Du coup, tu as monté ta structure, voilà. Un studio.
C'est ça, avec l'idée de travailler avec... qui a envie de venir participer, de venir à l'atelier, de faire des projets en commun.
Donc c'est un lieu d'abord, cet atelier ?
Voilà, c'est un lieu à Montreuil, mais là, c'est en cours de déménagement, par contre.
D'accord, une nouvelle adresse tout bientôt.
Voilà.
Et du coup, toi, tu as fait une école d'art pour ensuite décider de te lancer ?
J'ai fait plein de choses différentes. J'ai fait de l'illustration à l'école Renoir. Et après, j'ai fait de l'édition, du graphisme. Et me voilà, je...
Avec un studio voilà. Multifacette. Du coup, tu as collaboré notamment avec les tisanes d'Anaïs ou Nubio, qui est une marque de c'est produits ça. Bio. Mmh. Et donc, tu as développé leur identité.
Pas celle de Nubio. En fait, j'ai découvert Anaïs suite à un reportage qui a été fait sur elle, parce qu'elle a un peu déchaîné les foules. En fait, il y avait un reportage sur la difficulté d'être agricultrice, d'être jeune et de monter, ouais. sa structure. Et ça a énormément marché sur le web. Je pense que beaucoup de gens se sont retrouvés dans son histoire,
son parcours.
Et je l'ai contactée parce que j'avais envie de faire son identité. On s'est bien entendu. Et c'est là que j'ai commencé à travailler le papier marbré, justement, parce que je trouvais que ça correspondait bien aux tisanes, au travail de l'eau et des plantes. Et voilà, comme c'était une marque de luxe pour les tisanes, je trouvais que ça marchait bien.
Ça marchait bien. Mmh. Du coup, tu as pu, grâce à ce studio, collaborer avec des projets que tu voulais soutenir, qui avaient les mêmes valeurs que toi.
C'est ça.
Et donc, grâce aussi à ce papier, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu par exemple, comment déjà tu as appris cette technique ? Est-ce que c'est facile de l'apprendre ?
Non, c'est assez difficile. Enfin, ça dépend comment on l'appréhende. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un professeur parce que c'est une technique qui se perd. Et les professeurs ne sont pas à Paris déjà. Souvent, ils sont en province, perdus dans la campagne.
D'accord.
Et ils ne veulent pas vraiment partager leur savoir, ce qui est très dommage. Et j'ai eu la chance de rencontrer... un artiste marbreur qui vient de Turquie et qui est à Paris de temps en temps.
D'accord.
Et qui m'a enseigné les bases, vraiment les bases de la technique. Et voilà, j'apprends toujours.
Et du coup, donc ça s'appelle un artiste marbreur déjà.
Oui.
Complètement nouveau comme terme. C'est du coup une technique un peu traditionnelle à la base.
Voilà, c'est très ancien. Ça a été développé dans l'Empire ottoman. Et ça a été repris après par les Européens plutôt... 15e siècle.
Oui, ça fait assez reliure de livres anciens.
C'est ça, voilà. C'était utilisé comme une sorte de signature par le créateur du manuscrit.
D'accord.
Et après, c'était utilisé aussi dans les livres parce que comme en Perse, on ne pouvait pas représenter quelque chose de figuratif. Comme c'est abstrait, ça permettait d'illustrer les manuscrits.
D'illustrer, justement. Voilà. Ah, très intéressant. En plus, c'est quasiment politique. Et du coup, c'est comment cette technique, en fait, exactement ? Tu disais un lien avec l'eau, des couleurs, enfin, qu'on trouve sur ton site, des petites vidéos un peu explicatives, quelques images, mais c'est vrai que c'est un peu obscur quand même. Tu peux nous en parler ?
Alors, c'est un peu de la chimie, comme je te disais. En fait, il faut créer un bain d'eau un peu visqueux avec une poudre d'algues. Et le principe, c'est de faire flotter les couleurs à la surface, de créer un motif. Et ensuite, on vient déposer le papier à la surface et le motif s'imprime directement.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, c'est donc tu crées ton motif en fait sur l'eau.
Voilà, avec différents petits outils, des peignes. Mais ça, c'est quand on veut faire un motif très précis. Sinon, ça peut être abstrait. Et là, c'est juste projeter de la peinture sur la surface.
D'accord. C'est quoi comme peinture, de l'aquarelle des...
Ça dépend aussi. Il y a plein de techniques différentes. La technique traditionnelle turque utilise des pigments naturels qui sont assez difficiles à maîtriser. C'est pour ça que c'est long l'apprentissage. Mais sinon, on peut utiliser de la gouache, de l'acrylique, de la peinture à l'huile. Ça fait à chaque fois des effets différents. Et il y a une technique japonaise qui est encore plus ancienne, parce qu'elle date, je crois, du 7e siècle. Et j'essaye de l'apprendre en ce moment. C'est juste avec de l'eau pure et de l'encre. Et voilà, c'est très long. Il faut faire tomber une goutte, et puis une goutte d'eau, une goutte d'encre, une goutte d'eau. C'est japonais, c'est lent.
Pour faire encore des motifs.
Des motifs différents, oui.
Effectivement, du coup, tu fais tomber ces gouttes d'encre à la surface de l'eau. Du coup, c'est un peu aléatoire.
Tout dépend, ça peut être aléatoire comme ça peut être très précis si on travaille longtemps le motif.
Parce que l'idée à la base, comme tu me disais tout à l'heure, c'était au contraire d'atteindre une forme de précision.
De
et une
perfection,
forme de...
oui. Mon professeur qui est très puriste me fait recommencer en permanence jusqu'à ce que j'ai le parfait motif. Parce que voilà, la technique traditionnelle, c'est vraiment des motifs qu'on doit retrouver quasi pareil. Quoi.
Voilà. Et du coup, effectivement, on est aujourd'hui aussi, nous, je pense que c'est peut-être nos personnalités aussi, mais justement, dans quelque chose, avoir quelque chose d'unique, où on en parlait tout à l'heure, cette partie d'improvisation et ou d'erreur, qui n'en est pas forcément une. En fait, c'est ce qui nous intéresse, nous, dans cet objet-là, parce que du coup, on va pouvoir retrouver vraiment quelque chose de la personne, oui. Voilà, qu'il a créé ou quoi.
Bah, personnellement, j'aime bien les erreurs dans le papier marbré, donc j'essaye de les... travailler.
Ben oui, évidemment. C'est cette petite spécificité qu'on a en chacun de ne pas être complètement semblable et lisse. Du coup, j'ai vu que tu faisais des ateliers.
Oui.
Du coup, ça c'est pareil. S'il y a une part d'improvisation ou d'aléatoire, là, carrément, les ateliers, ça doit être...
Là, c'est complètement aléatoire. Surtout que je fais souvent deux sessions, une avec des enfants et une avec des adultes. Et avec les enfants, du coup, c'est n'importe quoi. On se retrouve. Mais ils sont toujours très, très contents. Donc,
ah bah,
c'est bien.
C'est le plus important.
Oui, puis c'est assez marrant à faire, en fait. Ça plaît beaucoup aux gens.
Oui, il y a un côté un peu magique, en fait, de voir ce dessin sur l'eau imprimé ensuite sur une feuille.
Ouais.
Qui ensuite sèche et du coup devient, cette feuille devient ce motif, c'est assez fascinant.
Puis ça plaît parce que c'est aussi très apaisant de voir les gouttes de peinture s'étendre sur la surface. C'est très calme comme technique, donc ça plaît bien.
Côté thérapeutique aussi.
Un peu, ouais. Si on met de la musique et tout, c'est
ça devient calme. Mais c'est ça, une forme de transe artistique encore. Du coup, j'ai vu que grâce à ce papier-là aussi, ou du coup en lien avec ça, tu as lancé ta marque de papeterie.
C'est ça.
Voilà, du coup, c'est toi qui fais aussi reliure tout qui...
Non, ça dépend. Des fois, je travaille avec un imprimeur que je connais bien et des fois, c'est toute seule. Ça dépend aussi si je fais tout marbré à la main ou si je retravaille sur l'ordinateur. Donc,
Tu peux retravailler sur l'ordinateur?
Ah oui, on peut tout retravailler sur ordinateur. Oui, je scanne.
Qu'est-ce que c'est que cet ordinateur dont tout le monde parle? Mais oui, mais du coup,
non,
tu
je scanne, je retravaille, je vectorise, tout ça.
D'accord. Trop intéressant. Du coup, voilà, j'ai vu que tu avais fait des petites vidéos aussi, presque des petits tutos pour en gros, ce que tu aimes, c'est transmettre. Tu as envie que cet art perdure.
Oui,
que...
en plus, c'est très beau à voir, en fait, la technique. Moi, j'ai adoré voir des vidéos. J'adore voir mon prof travailler. Et donc aussi, pour intéresser les gens, bien sûr, des vidéos... c'est bien.
Que c'est toi, du coup, qui monte aussi.
Après, c'est pas vraiment... J'aime pas trop que ça soit moi. Je préfère qu'on voit juste mes mains. Mais voir les gouttes tomber et tout ça, c'est assez beau.
Superbe. Et du coup...
Pardon, il faut un matériel spécial ou c'est à la portée de...
Ça dépend parce qu'il y a vraiment beaucoup de techniques différentes. On peut faire ça avec de la mousse à raser. Ça sera complètement aléatoire. Et, et dans la technique traditionnelle, non, il faut beaucoup de matériel spécial. Des pigments particuliers... pour que l'eau soit bien aussi, il faut mettre une poudre spéciale. Donc, voilà.
Une poudre secrète.
Voilà, à base d'algues.
C'est de la magie, on a dit, Christophe. Et du coup, tu collabores pour tes ateliers avec une librairie qui est dans le 18e.
La Régulière, qui a ouvert en septembre, et c'est un lieu magique. C'est,
c'est
vraiment bien. Il y a beaucoup d'ateliers, il y a de la papeterie, beaucoup de livres d'art, de BD. On peut venir travailler là-bas. Les filles sont sympas. Non, c'est vraiment chouette.
C'est trop bien.
Ouais.
En fait, donc, la promo de cette nouvelle et très belle librairie.
Oui, bah, on s'entend bien, donc.
Voilà. C'est important, il faut dire quand on est content. Ouais. Et du coup, tu fais un atelier là-bas bientôt.
J'en ai fait plusieurs et là, il y en a un. Le prochain, c'est la technique japonaise, le suminagashi.
Suminagashi, voilà, voilà. C'est exactement le mot que je ne voulais pas dire avant que tu le dises.
Et celui d'après, c'est le papier marbré traditionnel turc.
Ah, tu referas du papier marbré, voilà. Parce que j'avais vu que c'était
passé. On va faire de toute façon des ateliers assez fréquemment parce que ça marche bien. Donc,
super.
Continue.
Avec des enfants et des adultes, il y a un atelier enfant, un atelier adulte.
D'abord les enfants, comme ça ils salissent tout, et puis ensuite après les adultes, voilà, c'est ça, et on est tranquille.
Superbe, eh bien merci pour cette belle description et toutes ces petites informations qu'on peut retrouver sur Studio Museum.
Non, Atelier Museum.
Atelier Museum, mince. Ateliermuseum.com, c'est et sur Facebook, Atelier Museum aussi.
Je crois que là, c'est le musée, en tout cas. J'aime bien me compliquer la vie.
Voilà. Bon, vous regarderez sur Atelier Museum et vous trouverez les liens ensuite vers toutes les infos. Merci beaucoup, Galice, d'être venue nous voir ce soir.
De rien.
On veut du solide sur 93.9.
Et c'était Yo High de Agar Agar, une cover d'une chanson de Damon des années 90 dont tout le monde se rappelle, parce que le clip était hyper choquant, tout le monde se roulait des grosses pelles. Enfin, c'était deux bouches avec des grosses pelles. Des pelles, pour la Saint-Valentin. J'ai dit plein de fois pelles. Et maintenant, je vais passer la main à Christophe, qui va pouvoir cuisiner et Isaac Delejeune.
Oui.
Voilà.
Voilà. Bon,
on alors, pas aller au resto.
C'est vrai qu'un soir de Saint-Valentin. Bon. Alors, bon, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Isaac Delejeune, je vais me permettre ces quelques mots d'introduction très rapides. Isaac Delejeune, vous êtes l'incarnation de cette pop électro très contemporaine et universelle. Universelle comme cet appel à la liberté et à la rêverie que l'on retrouve dans tous vos titres depuis les débuts du groupe. Depuis, il y a eu deux EP, un album, des concerts de Paris à New York, Austin, en passant par Calcutta et New Delhi. Alors je vais commencer avec une question peut-être un peu Michel Drucker. Le succès est venu très rapidement. Comment vous l'avez géré ?
Tout à fait Michel. C'est arrivé alors qu'on ne s'y attendait pas, effectivement.
Non, mais plus sérieusement, ça allait quand même très vite cette histoire.
Le succès, c'est très relatif. On a par rapport à d'autres groupes, on est monté assez vite, mais par rapport à d'autres, beaucoup moins. Donc en fait, on a eu des succès. Disons qu'on a eu des succès très rapidement. Après, il y a eu aussi des phases où ça a mis du temps. On a commencé, on a sorti notre premier morceau en 2012. Donc ça fait déjà 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça.
5 ans, tout à fait.
5 ans, voilà. Il y a eu des périodes où tout est allé un peu vite, d'autres où ça a été un peu plus compliqué. Donc nous, on n'a pas l'objectivité, je pense, pour dire que le succès a été rapide et soudain. Mais en tout cas, on est très heureux de ce qui nous arrive et on est conscient de la chance ou en tout cas du plus qu'on a par rapport à d'autres groupes et de tout ce qui se passe.
Par rapport à ça, je dirais qu'aussi ce qui a été intéressant avec notre cas de figure, c'est qu'on a toujours eu la tête dans le guidon en fait, donc on a vraiment jamais eu l'occasion de relever la tête et de se dire regarde le chemin qu'on a parcouru quoi, parce qu'on a jamais vraiment arrêté de travailler. On est resté actif. Je pense que c'est le plus important parce que le succès, ça peut être très éphémère s'il n'y a pas de la persévérance derrière. Mmh. Et voilà, je pense que c'était la chose la plus importante à défendre en fait. Parce qu'un succès, ça ne veut pas dire grand-chose à l'heure qu'il est, avec la médiatisation et le buzz que quelque chose peut avoir rapidement et faire un feu de paille. Donc voilà, je pense que ça, on se l'est dit directement et on avait vraiment envie de rebondir sur quelque chose de plus profond pour la suite. Enfin voilà, quoi, on a été vraiment. Comme j'ai dit, la tête dans le guidon, donc.
Ouais. Voilà. Et pas à pas aussi.
Et ouais, pas à, c'est un mélange de lenteur et de.
Mesure,
ouais,
ouais.
C'est ça.
De lenteur et de vitesse.
Ouais, c'est ça. Voilà, je pense qu'il faut puissance. Pas trop réfléchir à ces choses-là, en fait.
Ok. Puisqu'on est un jour de Saint-Valentin, on va parler de votre rencontre. malheureusement, on n'a pas de musique. Romantique, mais bon, ouais, c'est comme si elle était là. Comment ça s'est fait cette histoire ?
Alors, on s'est rencontrés au collège. Par un ami qu'on avait en commun. Voilà, donc on a commencé à passer des soirées ensemble et à faire du skateboard. Ensuite, on a commencé à jouer de la guitare, parce qu'on avait plein de potes qui jouaient de la guitare. Loïc a persévéré beaucoup plus que moi. Moi, je suis allé vers autre chose. Voilà, et puis ensuite, on a chacun pris des chemins musicaux différents, même si on a continué à se voir et être pote, et ensuite on s'est retrouvé pour faire Isaac Delejeune.
D'accord, on a la petite musique, vous n'entendez pas parce que vous n'avez pas le casque.
Ah.
Mais Hugo nous a mis une petite musique. C'est vraiment.
Du coup, c'était encore plus sincère parce que j'entendais pas la.
Si tu veux, pendant la musique, je peux dire un truc trop touchant.
Oui, vas-y.
Il avait une sorte de nœud dans les cheveux. On aurait dit une grosse dreadlocks. Wow. Du coup, on croyait tous qu'il avait une dreadlocks, alors tout le monde touchait ses cheveux. Et, et c'est pour ça qu'on l'aimait.
J'ai beaucoup souffert.
C'est magnifique. Bon, pour se mettre un petit peu dans le bain avant de continuer en.
C'est beaucoup mieux avec le casque en fait. Hein.
Ouais.
Ouais, je vais le garder.
Avant de continuer à mieux vous connaître, bah, justement, je vous propose qu'on écoute votre premier succès, on peut dire. C'est Midnight Sun.
Thank you ever so kindly. I'm here with my machine.
Sun.
Alors, quelle est l'histoire de ce Midnight Sun?
Une histoire assez brève, en fait. C'est le morceau qu'on a fait en 10 minutes.
Ah ouais?
Non, j'exagère. 10 minutes, peut-être pas, mais on l'a composé hyper rapidement. Ça a été hyper instinctif, en fait. C'est un soir, c'était au tout début du projet, en fait. Je suis venu chez mon ami Jules et il m'a fait écouter cet instru, en fait, de hip-hop. Parce qu'il produisait des instrus de hip-hop un peu dans son coin, comme ça. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Et lui, il me l'a fait écouter parmi tant d'autres instrus. Donc, j'ai pris l'instru, je suis rentré chez moi. J'ai chantonné 2-3 paroles, comme ça, un peu au feeling. J'ai même pas écrit de paroles particulières. Et j'ai mis ça au fin fond de mon ordinateur, en fait. Ça a fini, en fait, parmi tous les fichiers que j'avais composés. Donc je n'avais pas le moindre espoir, quoi. Et au cours d'une soirée, en fait, j'ai un copain qui était là et dans la playlist, je sais pas comment, il y a ce morceau qui s'est logé, en fait, et le morceau s'est joué tout seul. Et là, mon pote m'a dit, mais remets ce morceau. Et je l'ai remis. Il m'a redit de le remettre une troisième fois. Je l'ai remis au bout de 3 fois. Et je me suis dit, ouais, il y a quelque chose quand même. Et j'ai fait écouter ça à un autre pote qui est ingénieur du son, et il s'est passé à peu près la même chose. Il m'a dit, remets-moi le morceau 3 fois de suite. Donc là, on s'est dit avec mon pote Jules qu'on avait peut-être un truc. Et voilà, donc on a sorti ce morceau-là et ça a été le début de la ZEC des Lujeunes. On l'a sorti et une semaine après, on passait sur Nova. Et puis incroyable. 3 mois après, on était aux États-Unis. Enfin voilà quoi.
Normal.
Ouais.
C'est à cause d'un aléatoire de.
C'est un esprit farceur.
Exactement. Non, mais... c'est...
Encore un.
Non, le shuffle a vraiment un grand pouvoir. C'est
fou.
Quelque chose qu'on peut vérifier à de nombreuses occasions. Le shuffle de
ouais, iTunes. Ouais, bien sûr. C'est fou. Mais est-ce qu'on peut vraiment croire que c'est une coïncidence? C'est pas
non.
possible à ce moment-là.
Non, mais ce qui est intéressant avec ce morceau, c'est que on a fait des morceaux hyper travaillés par la suite, où on a passé des milliers d'heures. Et curieusement, c'est ce morceau-là que les gens retiennent le plus au final, et c'est le morceau que les gens apprécient le plus.
Ouais.
Et voilà. Et en fait, parce que je pense que c'est un morceau qui est purement naïf, en fait. Et
ouais.
Voilà, je pense que c'est la recette. À beaucoup de choses, en fait. C'est la naïveté, la décontraction et ne pas avoir de... Exactement, ouais.
C'était le premier, ouais. Le plus simple. Et ouais. Aujourd'hui, on n'ose plus faire des choses aussi simples.
Donc, oui. C'est sûr. Après, c'est compliqué quand on réfléchit de créer des choses simples.
C'est toujours... Tout est toujours plus facile quand on réfléchit pas, de toute façon.
C'est clair.
Ne réfléchissez pas. Voilà. Ben, on entend justement ta voix, Loïc, qui change beaucoup de ta voix, là, par exemple, sur le micro. Comment tu l'as travaillée un peu, cette voix? Comment c'est venu?
En fait, je me suis toujours dit que j'avais envie d'avoir la voix de quelqu'un qui n'existe pas. En fait, j'ai voulu un peu me démarquer vocalement et je me suis beaucoup inspiré d'artistes comme Tom York, John Z de Sigur Rós. Enfin voilà, des grosses références pour beaucoup de gens. Et j'ai toujours aimé ce côté un peu fragile dans la voix. J'ai commencé à travailler comme ça et j'ai écouté un artiste aussi qui s'appelle Patrick Watson qui m'a pas mal inspiré sur ses premiers albums. J'écoutais aussi pas mal de jazz, Chet Baker, ce genre de choses.
Mm-hmm.
Et c'est venu assez naturellement, en fait. Je pense que j'avais besoin d'exprimer une sorte de créativité par un moyen qui s'est avéré être le chant.
T'avais pas fait des cours de chant à la base? C'est venu après d'après.
Non, j'ai jamais rien fait. Enfin, j'ai jamais appris quoi que ce soit, même en termes de musique et tout, de composition. J'ai tout fait à l'oreille, quoi.
Trop de chance.
Pas mal.
Petite classe, quand même.
Dans vos choix et votre musique, il y a cette aspiration à la liberté. Justement, avec le succès, est-ce que vous parvenez à conserver le fait de tout faire vous-même, d'avoir le dernier mot sur tout? Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que vous y tenez?
Encore plus qu'avant, en fait. Plus on avance, plus on a appris de nos erreurs et on sait faire les meilleurs choix. Donc aujourd'hui, on est encore plus indépendant qu'avant. On est là, on sort l'album chez Microclimat, qui est le label d'Antoine, notre manager. Donc on est vraiment juste avec lui. On a signé en distribution avec Idol, mais disons qu'en fait, toute la partie artistique, on la gère à 100% entre eux et nous. Et du coup, voilà, en fait, le fait justement, enfin tu parlais de succès, je reviens à la phrase, le succès est relatif, mais le fait d'en être là aujourd'hui nous permet d'être encore plus libre et encore plus indépendant qu'avant.
J'ai rajouté, c'est une aventure hyper excitante, c'est-à-dire que en fait on a pris le pari de se dire qu'on allait pouvoir créer un univers visuel aussi bien que musical, et ça a été quand même quelque chose de très éprouvant de faire tout ce travail autour de la musique. Mais en fait, au final, le point capital, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, on en est capable et que c'est possible vraiment de travailler sur tous les aspects de la musique. Évidemment, on a été aidé par des gens qui ont fait beaucoup, mais voilà, on est quand même une petite équipe et je pense qu'on a vraiment réussi à construire quelque chose de très complet autour de notre musique et pas besoin d'avoir des grosses équipes, pas besoin d'avoir des moyens incroyables pour faire quelque chose de qualité en fait. Je pense que c'est surtout la leçon qu'il faut retenir de ce deuxième album et de ce qu'on a fait avec nos partenaires.
C'est que c'est possible.
C'est possible avec de l'idée, de la créativité et surtout de l'énergie, beaucoup d'énergie.
Beaucoup d'énergie quand même, voilà. Beaucoup de travail. Et...
Ouais, beaucoup de travail.
Et
ouais.
Du coup, vous avez décliné, tu disais, cette musique en images aussi. C'est vous qui avez travaillé la dernière pochette. Enfin, j'imagine avec des partenaires, des gens qui vous ont aidé. Mais voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse, la partie visuelle.
Ouais, depuis le début, nous, on est très fans de cinéma, tous les deux. On a toujours suivi... De plus ou moins près tous les projets de clips qu'on a fait pour nous et puis là en fait voilà justement on a avec Microclimat du coup ce label il y a vraiment eu un travail sur l'image qui a été incroyable en fait d'aller dénicher justement ce John Carbon là qui a fait la pochette des réalisateurs pour des clips qui sont incroyables aux quatre coins de la planète, dans des petites structures, avec des productions. Tout ça, c'est du do-it-yourself, mais avec une ambition dingue, et de l'énergie, et de la passion. Et donc, du coup, c'est, au final, le résultat, il est ultra professionnel. Donc,
ouais, bien sûr.
Il y a quelque chose de très grisant aussi parce qu'on a travaillé vraiment avec des grosses boîtes et il y a quelque chose de très excitant dans le fait de se dire que c'est un peu un défi quoi. On peut faire quelque chose de qualité vraiment.
Avec des petites structures, voilà.
En y mettant du cœur en fait, ouais, en y mettant vraiment de l'humain. Je pense que c'est le plus important, c'est l'humain et au final on est tous là pour écouter de la bonne musique. La musique c'est un média qui permet de voyager, de faire plaisir. Donc,
de partager aussi.
Il n'y a rien de business là-dedans en fait. La musique c'est pas quelque chose de business à l'état pur. Après c'est un peu.
Évidemment, voilà, c'est un milieu, c'est une économie aussi. Mais
en réfléchissant comme ça, je pense qu'on peut faire des belles choses. Et,
complètement.
C'est un peu idéaliste, mais bon.
Non, bien sûr, c'est plus important, je pense. Ouais.
Au fur et à mesure de votre évolution, il y a aussi la question du live, en tout cas. Comment vous avez abordé cette évolution et s'adapter, par exemple, à des publics beaucoup plus importants, type fête de la musique, des très, très grosses salles ou des publics très nombreux. Comment on s'ajuste à tout ça,
vas-y. Je t'en prie.
Non, mais juste, je sais pas. Je pense qu'on va avoir la même réponse. On n'a pas vraiment eu le choix, en fait. Comme Loïc disait, mais on est ravis. Hein. Comme Loïc disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a toujours eu un peu la tête dans le guidon et on a toujours dû rattraper plus ou moins un retard qu'on avait parce qu'il y a plein de choses qui sont venues assez vite, surtout en live. Et du coup, voilà, c'est en travaillant, en répétant le plus possible, en essayant de toujours faire mieux, comme on vous disait tout à l'heure, en rajoutant des personnes dans le groupe. Voilà, on a commencé tous les deux, aujourd'hui on est cinq, tout le monde fait partie à part entière du groupe, on travaille avec acharnement, on a tous envie que ce soit le mieux possible en fait. Donc du coup, c'est un peu par défaut, mais avec tellement d'envie que ça a marché. Voilà.
Mais oui, je me rappelle, j'avais dû vous voir d'ailleurs à Bourges. C'est possible ça?
Ouais.
Sur la grosse scène, là, un truc, le, je sais plus comment ça s'appelle, W. Ouais, c'est ça. Et là, pareil, c'était un peu le défi, parce que ça, c'était justement au moment effectivement, où il a commencé à y avoir un boom pour vous et vraiment une marche passée, parce que c'est une énorme salle, en fait, c'est un énorme chapiteau, enfin, hangar, quoi. Et là, vous aviez fait un tout nouveau show, lumière comprise, hyper cinématographique et tout, et ça, vous aviez dû le travailler. Voilà, avec les personnes qui vous accompagnent et...
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'était une aventure assez incongrue, c'est-à-dire qu'on on a commencé en fait à tourner dans des petites salles et au fur et à mesure, on a développé en fait le live de façon vraiment hyper step by step quoi, et ça a pas été un truc direct quoi. Genre on a vraiment charbonné, on a commencé par le fond quoi, tu vois, enfin sans vouloir non plus dire qu'on vient pas de la misère non plus, mais voilà, on faisait des petits festivals et tout, et au fur et à mesure, par bouche à oreille, le live a commencé un peu prendre de l'ampleur. Après bon, on a eu des partenaires super derrière, Et c'est vrai que oui, ça a été un des plus gros trucs qu'on ait fait. Enfin, ouais. À l'époque, de jouer au W, c'est vrai qu'on ouvrait pour The Do et Christine.
Ah oui, c'est ça.
Et ouais, non, c'était une belle date, c'était une belle aventure. Et c'est vrai que maintenant, avec du recul, je me dis que on a tellement pris de maturité depuis, on a tellement développé notre live et on est tellement plus pro qu'à cette époque-là, que ouais, c'était un beau défi quand même de se lancer.
Ouais, ouais.
Voilà, surtout qu'avec les groupes qui suivaient après, c'était quand même des projets ultra complets avec des gens qui ont fait des choses énormes après. Donc,
exactement. Et puis en termes de scénographie, il y avait aussi pour les deux une énorme scéno, enfin clairement des moyens de ouf. Et je me rappelle, effectivement, vous l'avez compris, on était un public acquis ici, mais c'était vraiment bien. Et il y avait effectivement des jeux de lumière qui étaient assez cinématographiques, enfin très visuels et très... Après, comme évidemment, votre musique est très imagée aussi. Mais c'est vrai que... Enfin, très bon souvenir, en tout cas, de ça.
Merci.
Et donc, l'album Rust and Gold, c'est bien ça, sorti prévu le 7 avril. Il y a déjà un titre qui est sorti. C'est qui cette Isabella?
En fait, j'ai pas vraiment d'explication par rapport à ça. C'est-à-dire que je crée des tableaux, un peu, prenons l'exemple d'un peintre. Je m'inspire de plusieurs personnes que je rencontre et de plusieurs situations pour créer souvent parfois des tableaux de gens que j'imagine au final. Correspondent sûrement à plusieurs rencontres et en l'occurrence j'ai créé cette Isabella entre guillemets dont je parle dans ce morceau, mais j'ai pas vraiment de personne à qui identifier ce personnage, donc j'avais besoin d'un nom et en l'occurrence j'ai une amie qui a une petite fille très jolie qui s'appelle Isabella, donc j'ai eu l'idée d'associer ce nom à ce personnage que j'ai créé, qui est au final une chanson assez triste, donc voilà, il n'y a pas vraiment de rapport en fait. Je fonctionne pas dans le concret, c'est-à-dire que j'aime pas trop la notion d'écrire des chansons pour des gens. Ça peut être très romantique, mais ça fait un peu fleur bleue quand même. Voilà.
Ouais, Saint-Valentin quand même. Hein.
Ouais, voilà, exactement. Donc Saint-Valentin, par exemple, j'en ai pas grand-chose à faire.
J'allais dire, le clip sort demain, le clip d'Isabella. Et justement, on voit dans le clip que Isabella est universelle, en fait, n'est pas une fille, mais plusieurs, et représente, parle pour toute une population.
Exactement. En fait, on a travaillé avec une réalisatrice de LA qui s'appelle Nadia Lee Cohen, qui a fait un travail incroyable d'interprétation par rapport au thème de la chanson et qui a interprété cette chanson à sa façon. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi dans les chansons qui n'ont pas de thème concret, c'est-à-dire que il y a beaucoup de place à l'interprétation, c'est-à-dire que chaque personne peut peut-être s'identifier ou ça laisse une sorte de marge d'identification. Mmh. Et en l'occurrence, ce clip-là, elle a fait sa vision des choses par rapport à ce morceau qui... Et elle a fait quelque chose de très beau et de complètement différent en fait de l'œuvre générale. Elle a sublimé quoi en fait. Donc c'est ce clip-là qui sort demain, Isabella. Ouais.
Voilà. Et on va déjà écouter donc du coup Isabella.
Such a thrilling night, and she's turning round, barefoot in the sand. She locked up her heart in a cell, only she's guarding, and got rid of the keys.
Still waiting for vengeance, don't you? backseat of the taxi. She sentenced her love to ceaseless penalty.
C'était Isabella, le premier titre de l'album Rust and Gold, sorti prévu le 7 avril, d'Isaac Delusion, qui sont avec nous. Comment vous avez commencé à plancher sur cet album? Quand et comment? Voilà.
Bah, je pense que... On était en tournée pour le premier album. La tournée, elle a duré quasiment un an et demi. Et bah, comme on aime beaucoup faire de la musique, on ne s'est jamais vraiment arrêté. Donc... Pendant la tournée, dans le van, quand on était chez nous, 2-3 jours qu'on avait le temps, on continuait à composer des trucs et à commencer à avoir des idées de direction un peu générale ou de couleur pour le deuxième album. Et c'est en fait depuis un an qu'on s'y est mis, vraiment. On est arrivé, on avait déjà des maquettes, quelques morceaux, et c'est vraiment depuis un an, on a eu une résidence au Point Éphémère. Un studio où on y était tous les jours, voilà, et on a composé, enregistré, voilà, maquetté, tout ça, tous les morceaux de l'album. On s'est retrouvé avec à un moment avec genre 25-30 morceaux. On a réduit, on a dû sélectionner. Mais bon, bref, on a fait tout ça là-bas. Et voilà, et après, on est retourné en studio pour réenregistrer les pistes qu'il fallait réenregistrer, qui n'étaient pas assez jolies, parce qu'on était vraiment dans un petit studio, une boîte
de conserve, tu peux dire.
Enfermé, voilà.
Ça oblige à...
Bah, ça...
Ça oblige à vivre en proximité.
Ça oblige à vivre en proximité. Et avoir un son un peu brut.
Ouais.
Et qu'on cherchait un peu sur l'album, donc voilà, ça nous a arrangé presque. Il y avait des défauts et des inconvénients, et voilà.
Comment vous faites pour composer? généralement.
Je pense qu'on n'a pas de règles particulières. En général, on aime bien en fait, développer des morceaux ensemble. L'idée de base, en général, vient d'un de nous. Pour cet album, on va dire que j'ai apporté peut-être beaucoup d'idées, mais par contre, elles ont été développées entre nous. En fait. Donc au final, c'est un travail d'équipe, je dirais. Et c'est pour ça que ça marche, en fait, c'est qu'on a tous une personnalité, on a tous une certaine musicalité qui n'est pas forcément similaire en fait en fonction des différentes personnes du groupe, et c'est ça qui crée sûrement la richesse du son, en fait. C'est le côté collectif où tout le monde apporte un peu son grain de sable, et ça marche très bien parce qu'on s'entend tous très bien et on a un peu les mêmes idées et visions générales de ce qu'on veut, en fait.
Et le choix d'ajouter du coup une cinquième personne au groupe, c'est Cédric, c'est ça, qui est batteur.
Ouais. Alors c'est assez curieux en fait comme histoire. Pour l'anecdote, en fait, je l'ai vu jouer en fait quand on était en tournée avec. Il jouait avec Forever Pavot à l'époque. Hein, voilà, peut-être que vous connaissez. C'est un groupe de. Je ne saurais pas comment décrire trop ce qu'ils font, mais voilà, Forever Pavot.
Rock Psyché.
Et Rock Psyché, voilà, ouais. Et j'étais en fait, j'ai vu ce gars-là jouer. On jouait avec eux. On partageait un plateau et j'avais été bluffé par son jeu, quoi. J'avais trouvé genre super bon et j'avais dit au gars du groupe, ce gars-là, il faudrait qu'on essaie de lui parler pour essayer de faire des concerts avec lui. Et puis on avait vite oublié l'idée parce que on s'est dit il devait être surbooké, en fait. Et en fait, par le hasard des choses, il s'est trouvé que le studio qu'on a loué au Point Éphémère, il travaillait dans le studio juste à côté. Donc un jour, j'ai entendu un gars super bon jouer de la batterie et je me suis dit, ah, mais c'est qui ce gars? Et c'était lui, quoi.
Et, décidément.
Et voilà, et décidément. Et ensuite, on allait chercher des bières et Jules lui a renversé une bière sur la tête. Donc voilà, ça a créé l'amitié par hasard. Et puis maintenant, il est dans le groupe et genre, il est genre super fort, quoi. C'est un mec impressionnant. En live, il est genre. Il nous a vraiment bluffé et on est hyper content de jouer avec lui maintenant parce que ça rajoute un truc de ouf au live, quoi. Faut venir voir le live, venez.
Il y aura un live d'ailleurs à l'Élysée-Montmartre, c'est bien ça, hein, le 26 avril.
Exactement.
Peut-être des invités, des petites surprises, ou vous allez en tout cas dévoiler le tout nouvel album, c'est ça?
Tout à fait, ouais. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Okay.
On va avoir une. Normalement, on aura une première partie. On n'a pas encore décidé encore, on va voir. Mais la surprise, c'est surtout le nouvel album.
Ouais.
D'accord. Alors moi, j'ai juste vu le nom des titres. Alors c'est mon interprétation, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu ambiance États-Unis western. Voilà.
Pourquoi pas?
Non, mais The Sinner, Le Key and Mercy, Voyager. Bon, voilà.
Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a un côté un peu prêcheur, soul. T'es pas très loin.
Il
faudra vraiment que tu ailles au concert pour tirer quelques
indices dans cet interrogatoire. Cet interrogatoire en ce jour de Saint-Valentin, Fanny. On vous a réservé une petite surprise en ce jour spécial, on est obligé.
On a vraiment le temps de faire la surprise.
Petit quiz.
Parfait.
Du coup, on est sur le plateau des amours d'un moment à l'autre.
Le bateau des amours.
Non, le plateau des amours.
Ah, le plateau des amours.
Ouais, avec Jean-Luc Reichmann.
Oui.
Pas
amours,
Jean-Luc Reichmann,
d'accord.
C'est PF.
C'est pas. Comment
bon, c'est pas Jean-Luc Reichmann, c'est PF. Bref, c'est les
changé,
amours.
Mais...
Du coup, il va
le
juste.
Le plateau des amours, il y a 15 ans.
Voilà. On va vous poser une série de questions à laquelle vous allez répondre à tour de rôle. Mais comment on va s'y prendre du coup? Faut que vous bouchiez les oreilles à tour de rôle.
Pour voir si l'un a dit la même chose que l'autre.
C'est ça le principe, non?
Non, mais on va faire de manière... on va vous faire confiance. On va poser une question à Alain qui va répondre et l'autre dit si oui ou pas, c'était la même chose qu'il pensait.
Ok.
Sinon, on peut faire avec des papiers et tout, ça va être
compliqué. Ensuite, on verra si vous êtes vraiment apte à participer au vrai jeu.
D'accord, voilà. Je crois que je pense pareil. On va commencer, non?
Je suis d'accord.
Bien. Ça commence, première question. Lorsque vous abordez l'avenir, c'est plutôt à beaucoup de projets communs. B. Chacun a ses projets, on verra si ça fonctionnera comme ça. C. Vous vivez au jour le jour et n'abordez jamais ce sujet.
Ah.
C'est le A, non?
Au jour le jour, chacun sa merde.
Non, on est en train de mettre la merde.
Bon, alors ils ont raté le premier 1. Faire un 0 du piqueur brisé.
Je précise que ce sont des vraies questions, hein, des
d'accord.
Amours.
On va essayer d'être sérieux.
Documenté.
Quel est le détail le plus intime que vous connaissiez de lui? A. Que vous connaissez. A. Son deuxième prénom. B. Un secret qu'il n'a dit qu'à vous. C. Le prénom de toutes ses ex.
Ah.
Je pense que des ex, il y en a trop, en fait, donc faut pas que j'essaye. Mais peut-être que lui connaît le nom des miennes, parce que j'en ai pas eu tellement que ça. Donc,
on va pas s'accorder là-dessus non plus.
On va dire le secret, hein, comme ça tout le monde est...
C'est pratique.
D'accord, tu peux dire mon secret.
Vous connaissez pas les deuxièmes prénoms de l'un et l'autre?
Ah! Ouh là là!
Voilà, de l'eau dans le gaz!
Jules Francis, non, c'est pas ça?
Francis?
Ah non, je crois pas.
Francis Paul.
Francis Paul, ah ouais, je le connais.
Francis Paul George.
Francis Paul George.
C'est pas mal!
Bon, c'est un quart demi, on en met un demi,
on
un demi. Troisième
pas
question. On lui propose une promotion bien rémunérée dans un coin reculé du globe. A. Vous le menacez de le quitter s'il accepte. B. Vous le soutenez et décidez de le suivre au bout du monde. C'est vous feignez un malaise.
Ah, B, hein.
Ah, oh ouais, je pense, ouais. Ouais,
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 ouais. On parle du monde. Hein.
Bah ouais, on s'en va, ouais. On s'en fout.
Bien rémunéré, ouais. En plus.
Bien oui, rémunéré. Bien rémunéré. Ah, ouais, ouais. Ah, il y a des applaudissements. C'est parfait.
Quatrième question.
Merci, Jean-Luc.
Quand on vous parle de vie à deux, vous pensez A. Au bonheur de vous réveiller à côté de lui. B. Au début du cauchemar. C. À rien, ça ne vous inspire pas vraiment.
Je pense à prendre un homme par la main. L'emmener au parc et le porter par les aisselles, l'élever très haut.
Donc réponse D.
Il parle de son fils.
Ah oui, je parlais de mon fils. Hein. Attention, pas d'ambiguïté là. Hein.
Vous avez déstabilisé Jean-Luc.
Un homme de jeune âge.
Bon, la question était peut-être pas tout à fait appropriée. On va partir sur la dernière question pour voir si vous pouvez vraiment participer ou non. Si votre duo était une ville, ce serait A. Paris, le romantisme avant tout. B. Las Vegas, strass et paillettes pour une vie pleine de rebondissements. C. Brive-la-Gaillarde, la nature, c'est le pied.
Pff, Las Vegas, non?
Ouais, ou ouais. Brive, ça a l'air cool aussi quand même. Hein. Brive, ouais.
Non, mais il y a moins de paillettes.
Campagnard, tout ça.
Non, 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 on va prendre Las Vegas.
Okay. Las Vegas.
Allez, Las Vegas.
Voilà.
Bravo.
Merci.
Bravo.
Applaudissements.
Fin d'émission, applaudissements. Merci. Bravo.
Merci, mon cœur.
Merci, mon vieux.
Donc, vous n'êtes pas, sur 5 sur 5. Vous êtes sans doute au début de votre relation, car il semblerait que la vie à deux soit un peu compliquée pour vous. Ne vous découragez pas, avec le temps et un peu de persévérance, vous serez prêt à franchir le cap. Et même à participer
mais
aux
oui,
amours.
Ce n'est que le début, ça ira beaucoup plus loin.
J'en doute pas.
On espère que vous allez passer le cap de cette Saint-Valentin à Isaac Delusione pour nos oreilles et pour tous ceux qui vous suivent depuis quelques temps. Donc l'album Rust and Gold sorti le 7 avril. Rendez-vous à l'Élysée Montmartre pour découvrir toutes les chansons en live le 26 avril. D'autres dates de prévues?
Plusieurs, mais on n'a pas le détail là. Donc
d'accord.
On vous laissera sur la page Facebook.
Exactement. On vous laisse vous renseigner.
Voilà.
Sur Internet. Voilà.
Ça vaut.
Et ben voilà, super. Nous, on se retrouve
dans un mois
pour une nouvelle émission d'Envoi du Solide. À bientôt et merci encore.
Merci.
À bientôt,
merci. Ciao.
Ciao.